BPM, élections législatives 2024.
Bonjour à tous, bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Le premier tour des élections législatives aura lieu ce dimanche 30 juin et le second tour le dimanche 7 juillet. À cette occasion, eh bien BPM vous propose des émissions spéciales où nous recevrons les 8 candidats sur la 5e circonscription de l'Eure. Et aujourd'hui, nous recevons David Daverton, candidat des Républicains sur la 5e circonscription de l'Eure. David Daverton, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 38 ans, vous êtes le premier adjoint au maire de Dicourt, commune dont vous êtes élu depuis 2008. Vous avez décidé de vous présenter pour ces élections législatives 2024 et votre suppléante se nomme Lisa Guérin. Durant cette émission, nous allons passer en revue votre projet pour la circonscription, vos propositions et vos priorités pour les prochaines années. Tout d'abord, un retour sur la décision du président de la République survenue après les résultats des élections européennes le 9 juin dernier, à savoir la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous, face à cette annonce, comment est-ce que vous avez réagi? Vous avez été surpris, j'imagine?
Alors, nous avons été surpris, je pense l'ensemble des Français a été surpris. Par ailleurs, nous attendions à cette dissolution, puisque depuis plusieurs mois, effectivement, nous sentions bien que le président n'était plus du tout à la barre dans son pays et qu'il était difficile de gouverner. Par ailleurs, effectivement, je pense que Emmanuel Macron, de par son intelligence que l'on lui connaît, a effectivement rebondi suite aux européennes pour un petit peu dérouter le pays et essayer de créer cet effet de surprise pour à nouveau nous mettre un peu un genou à terre, puisqu'il aime, je trouve, mettre les Français souvent un genou à terre.
On s'est retrouvé du coup avec une campagne rapide, une campagne très, très vive. Vous vous étiez présenté, vous, il y a 2 ans déjà. C'est quoi la différence par rapport à la dernière campagne? Du coup, c'est vraiment ce temps très réduit?
Alors effectivement, le temps est très réduit, mais par ailleurs, on sent qu'il y a beaucoup plus d'intensité dans cette campagne. On sent aussi un retour des Français qui n'est absolument pas le même qu'il y a 2 ans. Cette campagne éclair était voulue par le président pour essayer de dérouter tous les partis et pouvoir reconstruire une majorité. Je pense que ça ne lui jouera pas en sa faveur, effectivement, puisque les Français en ont assez. Aujourd'hui, les Français rejettent la politique, rejettent ses politiciens et ses arrangements de dernière minute. Ils veulent vraiment aujourd'hui des gens qui les représentent. Donc je pense que effectivement cet effet de surprise n'aura pas l'effet qu'il avait escompté.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter de nouveau ces élections après l'aventure en 2022 déjà?
Alors c'est assez simple, c'est que je pense que les Républicains sont la voie effectivement possible, une voie tangente par rapport à ce que l'on essaie de nous imposer, ce que le gouvernement essaie de nous imposer aujourd'hui, c'est-à-dire des duels soit Macronie extrême droite, soit de la Macronie extrême gauche, en nous expliquant au deuxième tour qu'il faut impérativement voter pour les candidats Macron, puisqu'ils sont les seuls à pouvoir sauver la France et sauver notre patrie. Non, je pense qu'aujourd'hui les Français on a le devoir en tout cas de se présenter à eux pour leur laisser le choix. Le choix de se dire « je n'ai pas envie de voter pour Emmanuel Macron et ses représentants et je n'ai pas envie de voter pour les extrêmes ». J'espère sincèrement que la gauche va être capable de se reconstruire et qu'à droite, nous continuerons à tenir bon face à effectivement une Macronie qui essaie de nous faire croire qu'ils sont à la fois centre-gauche et centre-droit.
Vous décrivez comme étant le candidat de la droite républicaine gaulliste et sociale, hein, c'est ça?
Je suis le seul candidat de la droite républicaine et gaulliste, effectivement. Les autres candidats ont des étiquettes claires. Nous avons un candidat qui est de la majorité présidentielle. Même s'il se présente aujourd'hui avec une étiquette Horizon, on sait d'où il vient. D'ailleurs, son suppléant, il y a 2 ans, était bien sur une affiche aux côtés d'Emmanuel Macron. Donc, ne tergiversons pas sur ce sujet. Et puis, les autres candidats, nous avons un front de gauche qui s'est organisé. Et puis, de l'autre côté, nous avons le Rassemblement National. Donc voilà, nous sommes effectivement sur des pôles bien définis. Il n'y a pas plusieurs candidats républicains ou gaullistes. Il n'y en a qu'un seul et c'est moi.
Et vous vous présentez également comme étant un député de terrain, un véritable enfant du pays, on en parlait juste avant l'émission?
Bien sûr, parce que contrairement à beaucoup d'autres candidats, je suis habitant, je suis né ici, j'y ai été élu aussi, je travaille sur le secteur, j'ai une vraie fonction effectivement de lien dans la population, je suis très investi dans le milieu associatif aussi sur le territoire, contrairement à beaucoup qui aujourd'hui se présentent à nous avec de belles promesses, mais on ne voit pas souvent d'actes et je pense que c'est ce que les Français ont besoin, des gens qui soient proches d'eux et surtout comme eux.
On peut aussi lire sur votre programme « Voter Daverton, le seul vote utile ». C'est une phrase forte.
Oui, car je pense que effectivement la France aujourd'hui a besoin de votre utile. elle n'a plus besoin de ces votes justement où on impose, où on essaie d'expliquer à longueur de temps effectivement ce qui est bien, ce qui est mal. Je pense que les Français ont besoin d'avoir un vrai vote utile, un vrai vote de terrain et de vraies représentations tout simplement.
Un sujet que nous devons forcément aborder quand on parle des Républicains, on pense évidemment à ce début de campagne pour ces élections législatives très mouvementées. Un rappel des faits avec Éric Ciotti, ancien président LR désormais, qui avait annoncé une alliance avec le Rassemblement National. Face à cette annonce, vous, comment est-ce que vous avez réagi et puis comment est-ce que vous avez pu relancer la machine, on va dire, derrière, entre guillemets?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à analyser en fait, dans cette situation. Éric Ciotti n'est pas forcément l'ensemble des LR et l'ensemble des LR n'est pas non plus Éric Ciotti. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs voix, même au sein du même parti. Je pense qu'aujourd'hui, faire polémique sur ce sujet n'a pas lieu d'être. Les Français n'ont pas envie d'entendre ça. Certains sont plutôt d'accord effectivement avec la décision d'Éric Ciotti, d'autres moins. Je pense que nous pouvons avoir des voix différentes. Nous sommes partis d'un seul et même parti qui s'appelle Les Républicains. Aujourd'hui, Les Républicains continuent dans cette direction. Si Éric Ciotti décide de quitter effectivement Les Républicains pour rejoindre le Rassemblement National, grand bien lui fasse. Par ailleurs, je pense que Les Républicains auront toujours leur voix avec ou sans Éric Ciotti.
Parlons désormais de votre programme et une des principales valeurs, vous, que vous défendez, celle du travail. Ça vous tient particulièrement à cœur?
Oui, ça me tient particulièrement à cœur parce que je fais partie de ces travailleurs. Je fais partie des gens qui se lèvent tous les matins, qui allons travailler pour faire avancer notre pays. Aujourd'hui, je trouve qu'en politique, il y a beaucoup trop de gens qui font des leçons de morale à longueur de temps, qui nous expliquent ce qu'est le travail, mais qui n'ont jamais eux-mêmes travaillé ni dans le privé, ni même effectivement dans des structures publiques, qui n'ont fait que de la politique. Je pense qu'aujourd'hui, pour être au plus proche des Français, il faut comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Il faut comprendre ce que c'est effectivement les difficultés pour un entrepreneur, mais aussi pour un salarié, et par ailleurs parfois pour des chômeurs, des gens qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain alors qu'ils ont toujours travaillé. Quand on arrive au bord de la retraite et qu'on vous explique que vous allez vous retrouver pendant 2 ans au chômage, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de fierté à ça et que beaucoup de gens le vivent très mal. Donc aujourd'hui, entendre tous ces politiques faire ces grandes leçons de morale ou nous expliquer qu'avec eux, ça ira mieux après, etc. Moi, je les invite avant tout à aller travailler, à aller dans certaines entreprises privées, comprendre comment fonctionnent effectivement tout simplement les Français aujourd'hui.
Ce sont des réponses, des reproches directement faites à certains candidats de la circonscription?
C'est pas des reproches, je pense que c'est surtout un conseil. Je pense que c'est un vrai conseil parce qu'aujourd'hui, on tape à longueur de temps sur les électeurs qui ont voté pour le Rassemblement National avec des scores qui ont été quand même exceptionnels sur le territoire. Je pense qu'avant de taper sur tous ces gens, il faut juste comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et je pense que si on en est arrivé là, c'est aussi et grâce aux politiques. À une politique qui n'a jamais écouté réellement les Français. Aujourd'hui, on a 2 sphères, effectivement, qui font que les Français ne se retrouvent plus dans la parole des politiques. Et pour s'y retrouver, je pense que les politiques doivent être avant tout des exemples.
Et dans cette partie autour du travail, vous souhaitez du coup détaxer les heures supplémentaires?
Bien sûr, moi je pense que le travailler plus pour gagner plus d'il y a quelques années est toujours au goût du jour et je pense que beaucoup de Français ont envie de travailler un peu plus pour avoir à la fin du mois un petit supplément qui leur permettra de pouvoir se payer des vacances sympathiques qui vont pouvoir leur permettre de se payer effectivement des à-côtés qui aujourd'hui deviennent de plus en plus compliqués. On le voit effectivement avec l'augmentation de l'énergie aujourd'hui qui plombe réellement le ménage des Français. Nous sommes sur un territoire où la plupart de nos concitoyens travaillent en région parisienne, font la route tous les jours. Je peux vous assurer que faire le plein de la voiture aujourd'hui, on se pose de réelles questions.
Justement, donc ce sujet qui est forcément lié avec ce que vous disiez, c'est l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat que les habitants du pays et donc de la 5e circonscription de l'Eure particulièrement touchés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre l'inflation? Quelles sont les idées, les propositions que vous aurez à faire?
Alors je pense que la première des mesures qui, à mon avis, est une mesure essentielle, ça va être de baisser les taxes sur les carburants. Alors on entend effectivement des discours écologiques qui nous disent « oui, on l'entend bien tout ça, je suis assez d'accord ». Par ailleurs, aujourd'hui, il y a quand même urgence. Il y a urgence à surtout que les Français puissent aller travailler et décemment. Quand vous vous rendez compte qu'un plein d'un automobile est entre 70 et 100 euros, on atteint quand même des sommets. Et dans le budget des Français, ça devient impossible. Ça devient impossible. On arrive à des budgets qui aujourd'hui représentent pratiquement des loyers, des budgets de carburant. c'est pas possible. Aujourd'hui, le Français doit pouvoir se loger décemment avec un tarif décent, mais il doit pouvoir aussi aller travailler avec effectivement son véhicule à un tarif décent.
Donc il y a une volonté de baisser directement les taxes sur le sur les carburants, sur l'énergie.
Complètement. Je pense que effectivement il faut y passer. Ça n'empêchera pas de pouvoir continuer à explorer d'autres solutions que les énergies effectivement de type gasoil et autres. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que même dans les entreprises, on se rend compte que ça a plombé en fait les économies des entreprises. Et que ça a même mis en difficulté les sociétés de transport, les sociétés qui ont besoin au jour le jour de ces carburants.
On a également vu les prix sur les produits de première nécessité aussi être de plus en plus élevés. J'imagine qu'il y aura aussi une volonté derrière de réguler tout cela.
Bien sûr. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus faire de fausses promesses aux Français en expliquant que l'on va supprimer la TVA sur la totalité des produits. Je pense qu'il faut être raisonnable et réaliste. Nous avons besoin aussi de cette TVA pour d'autres investissements. Par ailleurs, je pense qu'il peut y avoir une réduction effectivement de cette TVA sur les produits de première nécessité. Appeler effectivement à ce qu'il n'y ait plus cette TVA, je pense que sur le long terme, ce ne sera pas viable, quoi qu'il arrive.
Autre sujet, on sait que le territoire de la 5e circonscription de l'Eure est majoritairement rural. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, notamment du côté de l'agriculture?
Alors je pense que mon discours n'aura pas changé depuis 2 ans, parce que je pense que j'ai défendu, même avant de me présenter effectivement en 2022, l'agriculture sur le territoire. La première des mesures, elle est très simple. Elle va être déjà de réduire effectivement toutes ces normes, d'alléger effectivement toutes ces démarches. Aujourd'hui, les paysans de notre secteur passent plus de temps dans leur bureau que sur leur tracteur. Ils n'ont pas fait ce métier aujourd'hui pour devenir l'administration de française ou de l'administration européenne. Ce ne sont pas effectivement des gens qui souhaitent en tout cas être surchargés de cette administration.
D'ailleurs, de nombreuses grèves ont eu lieu, de nombreuses manifestations ont eu lieu ces derniers mois en ce sens.
Bien sûr, et c'est d'ailleurs ce qui est assez drôle, puisque je me suis moi-même rendu effectivement sur les barrages et les grèves qui avaient été faits par les agriculteurs, et bizarrement, vous voyez, les candidats de la 5e circonscription, je ne les ai pas vus. Donc c'est assez drôle aujourd'hui de voir dans les programmes qu'on est prêt à faire des choses pour l'agriculture, alors que ça fait des années que ça dure, ça fait des années que les agriculteurs appellent à l'aide et que personne ne les écoute. Donc c'est assez drôle aujourd'hui de voir dans les programmes que l'agriculture inquiète les candidats.
Il y a aussi une volonté, j'imagine, de lutter contre la concurrence des importations d'autres pays.
Bien sûr, alors ça c'est essentiel. C'est même, j'allais dire, une priorité nationale. Quelle que soit, j'allais dire, nos idées, je pense qu'il va falloir revenir sur une priorité nationale. La priorité, effectivement, de faire vivre décemment, bah justement, nos agriculteurs, nos producteurs, nos entreprises. Il n'y a pas de honte, effectivement, à dire j'achète français, je mange français, j'ai envie de voir mon pays. Voilà, il y a beaucoup d'autres pays qui l'adoptent, et ce n'est pas pour cela qu'ils sont extrémistes. Je pense qu'il faut aussi avoir fierté du pays dans lequel nous vivons, du pays dans lequel nous avons envie de voir bien vivre nos entreprises et nos concitoyens.
Et ainsi assurer derrière une souveraineté alimentaire.
Bien sûr, la souveraineté, comme vous l'avez vu dans mon programme, est un point essentiel. La souveraineté alimentaire, c'est ce qui doit être, effectivement, je vous dis, une fierté nationale, et nous devons y revenir en urgence. C'est une priorité nationale pour, effectivement, les prochains mois qui arrivent.
Avant de conclure cette émission, on va parler de l'onglet un peu sécurité. Sur votre programme, vous prenez une tolérance 0%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous comptez réaliser tout cela?
Alors, la tolérance 0%, elle est simple. Nous avons entendu de longs discours sur justement l'insécurité en France. Depuis des années, il ne se passe plus rien. Nous sommes débordés. Alors la première des choses, je pense, c'est qu'il va falloir redonner le vrai pouvoir auprès des gendarmeries et des policiers, parce que c'est là où on a manqué, je pense, dans notre devoir, c'est de donner un vrai pouvoir effectivement aux gens qui défendent notre pays. Et puis la deuxième des choses, c'est concernant effectivement les OQTF. On le voit bien, ces obligations de quitter le territoire qui ne sont pas appliquées ou très peu appliquées. Et pourtant, le ministre de l'Intérieur nous dit « mais vous inquiétez pas, moi je vais ». Oui d'accord, mais là on veut vraiment que ça puisse se réaliser. Nous avons quand même eu sur notre territoire il y a très peu de temps un grave attentat, j'allais dire, qui s'est passé face au personnel pénitentiaire. Je pense que ça doit faire réagir qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus avoir de tolérance face à la délinquance. Il faut des actes. Aujourd'hui, il faut que la peur change de camp. Parce que les gens qui ont peur aujourd'hui ne sont pas les bons.
En un mot, pour conclure, si vous n'êtes pas au second tour, est-ce que vous donnerez des consignes de vote ?
Alors, je pense que je serai au second tour, donc la question n'est pas d'actualité. Par ailleurs, nous verrons dimanche soir, effectivement, ce qu'il en sera. Et je pense surtout qu'il faut appeler les Français à voter avec le cœur et avec ce qu'ils ont envie. Ce qu'ils ont envie pour eux, ce qu'ils ont envie pour la suite et pour leur avenir. Et surtout, penser à l'avenir de leurs enfants. Au-delà de ça, je pense que nous nous reverrons dimanche soir.
David Daverton, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette émission sera rediffusée à midi et 18h et vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast, puis élections législatives. À 8h30, nous recevrons Pierre-Yves Jourdain, candidat pour le nouveau Front populaire pour la 5e circonscription de l'Eure. Ne bougez pas, on se retrouve très vite sur BPM.
BPM, élections législatives 2024.